Dans ce journal, on vous parle de justice avec une enquête ouverte par le parquet après la plainte d'Edouard Fritsch. On s'intéresse aussi au BTP et à la réforme des rythmes scolaires. Et on termine cette édition par du sport. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Yorana Damien, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence avec cette enquête ouverte par le parquet.
Oui, la procureure Solène Bellawar a ouvert une information judiciaire hier à la suite des lettres de signalement et de plaintes envoyées par Edouard Fritsch. On vous en avait parlé, l'ancien président du pays visait les propos tenus par le représentant Tavini Mitema Tapati à l'Assemblée fin octobre. C'était à propos du blanchissement du fait noir. Il visait aussi ceux du ministre de l'Éducation Rony Terry-Ipaya qui compare les arrivées de métropolitains aux invasions arabes de la métropole, je cite. Edouard Fritsch, dans une première version de sa lettre, dénonçait aussi les propos d'Oscar Temaru, tenu quelques jours plus tôt toujours à Tarahoy, quand le chef de file indépendantiste avait parlé d'un changement démographique et d'une vague migratoire qui va nous noyer, je cite encore. Ce sera désormais à un juge d'instruction de vérifier si ces propos peuvent être qualifiés de provocation à la discrimination.
Le secteur du BTP est inquiet et le gouvernement veut rassurer.
C'est ce qu'a dit le président Brozerson en début de semaine lors de ses vœux au CESEC, puis sur notre antenne, face à un secteur qui dit manquer de visibilité à court et à moyen terme. Il a d'abord pointé du doigt certaines crapules, dit-il, du secteur qui jettent le discrédit sur l'ensemble du BTP au moment de pratiquer leur prix. Thierry Chanzin, le président de la chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, veut de son côté rester prudent. Il explique que si le président fait référence à un projet dans les îles concernant ses surcoûts, eh bien le prix n'est évidemment pas le même que pour un chantier à Tahiti, avec, dit-il, des contraintes pour les entreprises et des ratios très variables qui peuvent refléter les difficultés de certains acteurs dans ce marché très hétérogène qui a vu plusieurs faillites retentissantes. Moetei Brozerson dit comprendre l'inquiétude du bâtiment à ce sujet, mais assure qu'il s'agit davantage d'un ressenti, d'une angoisse pour le futur que d'une réalité.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, le bâtiment ne souffre pas. Il croule sous les chantiers, il croule sous les commandes, ils ont du mal à répondre aux appels d'offres du pays. Nous avons 30% des appels d'offres du pays qui sont sans réponse, donc ça veut bien dire que les gens sont occupés. Rien qu'avec le secteur de l'équipement, on a de quoi occuper nos entreprises jusqu'à à peu près la moitié de 2025. Et avant la fin de l'année, il y aura de nouveau des appels d'offres qui seront lancés, qui là, en gros, vont... Et là encore, une fois, je parle que de l'équipement qui vont tenir nos entreprises occupées pour les 3 ans qui viennent.
Voilà, Moetei Brozerson qui parle de l'équipement et c'est sans compter, dit-il, les chantiers de logements sociaux et de projets touristiques qui vont voir le jour. Mais ces données-là, pour l'instant, on n'a pas les éléments, c'est ce que rétorque Thierry Chanzin.
Invité à la présidence à la fin du mois de janvier, là, pour la présentation des projets qui doivent être déclinés par le ministère des Grands Travaux. Au cours de l'année 2023, tout le monde a appris par la presse l'arrêt, la suspension, le redimensionnement de certains projets. Et malheureusement, on n'a pas eu d'autres infos, on n'avait pas d'autres précisions, donc ça a été source de stress et d'inquiétude. Si j'ai bien compris, ils vont faire le point sur tous les marchés publics, y compris, si j'ai compris, avec le port autonome, GDP, la sensibilité à l'équipement. Donc on devrait avoir de la visibilité, un petit peu plus en tout cas, c'est ce qu'on espère.
Et cette fameuse réunion à la présidence est donc prévue à la fin du mois pour une présentation des projets du pays, ce sera par le ministre des Grands Travaux.
Un pays d'Asie milite pour la décolonisation de la Polynésie.
Et oui, on parle là de l'Azerbaïdjan, un pays avec qui les relations sont très tendues avec la France. Et bien le Parlement de cet État a recommandé hier à Paris de prendre des mesures en vue de la reconnaissance de l'indépendance de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie et donc de la Polynésie française. Le Parlement azerbaïdjanais a également demandé de couper tout lien économique avec la France et d'expulser les entreprises françaises du pays. Et ce, dans un contexte de tension lié au soutien de la France à l'Arménie, pays voisin et ennemi de l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas la première fois que cet État, considéré par de nombreux observateurs comme une dictature, fait parler de lui dans le Pacifique francophone. Début décembre, Paris avait accusé le pays d'avoir tenté de mener une opération de déstabilisation en Nouvelle-Calédonie. C'était à l'occasion de la venue du ministre des Armées, Sébastien Lecornu.
7h05, rythme scolaire, les détails de la réforme du pays.
Après avoir suspendu en juin dernier la réforme concernant les obligations réglementaires de service des enseignants, le ministre de l'Éducation, Rony Terry-Ipaya, prévoit finalement de la faire appliquer à partir de la prochaine rentrée. Celle-ci implique une réduction des temps d'enseignement passant de 27 heures à 24 heures par semaine. Ces 3 heures, soit 108 sur l'année, seront ainsi consacrées aux réunions réglementaires, mais aussi aux formations. Rony Terry-Ipaya insiste sur le fait que cette réforme, qui entraîne forcément une modification des des horaires, eh bien elle doit être mise en place en concertation avec toutes les parties prenantes, les parents d'élèves, les communes ou encore les transporteurs.
Et les horaires seront fixés après en concertation avec les parents et les communes surtout, et les transporteurs, parce qu'il faut qu'on soit tous au diapason, faire en sorte que tout se passe bien. Il n'y a que le nombre d'heures dévolues. Okay, ça peut être 5 heures par jour, mais il ne faut pas dépasser 6 heures par jour pour permettre justement à l'enfant d'être bien. Parce que si on donne trop d'heures, ils sont fatigués.
Et cette évolution va aussi permettre aux enfants de s'adonner à des activités périscolaires, mais leurs parents devront, quoi qu'il en soit, s'organiser. Et pour leur permettre de le faire au mieux, 5 scénarios pour moduler la répartition des cours sont mis sur la table. Semaine de 4 ou 5 jours, après midi libre ou non, les parents auront leur mot à dire. Et dans l'administration publique, certains agents pourront notamment opter pour le télétravail, mais les autres, eux, devront s'organiser.
C'est pour ça qu'on propose plusieurs scénarios. Donc, on rappelle aussi aux parents qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est important. Nous, on joue notre rôle en tant qu'éducateurs, mais aussi ils ont aussi leur rôle en tant que parents quand on a des enfants, mais après on s'organise en fonction. Donc c'est vrai que les communes peuvent contribuer à s'occuper des enfants pendant les heures où ils ne seront pas à l'école, mais ça, je le rappelle encore une fois, ce n'est pas une obligation. En fonction du scénario qui va être proposé ou qui va être voté ou retenu pour telle ou telle école, il faudra s'organiser.
Un changement qui arrivera donc avec son lot d'inconvénients, mais aussi ses bons côtés. Un travail conjoint avec le ministère de l'Équipement a ainsi été engagé pour repenser la fluidité du trafic routier en fonction des horaires qui pourront différer d'un établissement à l'autre, même s'ils sont situés dans une même commune. C'est une consultation citoyenne que va donc lancer le ministère dans les écoles du 11 au 15 mars et qui permettra d'en définir les contours de manière précise. Elle prendra la forme d'un vote, un par famille, qui désignera le scénario favori des parents. Et en fonction, les communes et les transporteurs émettront un avis qui devrait, selon le pays, permettre à terme la mise en place d'horaires convenant à la majorité des familles. A noter qu'il n'est pour l'instant pas question de modifier la durée des vacances scolaires, mais ça n'est pas exclu dans le futur.
Et on s'intéresse désormais aux langues.
Oui, puisque la famille ATM signe le deuxième tome de ses éléments pour une étude comparative du tahitien, du français et de l'anglais. Carole, son frère Florent et leur père Félix ont ainsi croisé leurs expertises pour comparer les trois langues. Ils ont travaillé sur les verbes, les noms, les fonctionnements grammaticaux. Et ces deux tomes sont donc des outils qui apportent un nouveau point de vue pour un meilleur apprentissage du tahitien en premier lieu, mais aussi de l'anglais et du français. Ils confirment en tout cas toute la complexité du tahitien, définitivement considéré comme une langue comme les autres. Précision de Carole Atem qui répond à Delphine Barret.
Il s'agit d'étudier sur le plan de l'énonciation les trois langues de façon comparative pour montrer que les trois langues ont des structures aussi complexes les unes que les autres et que finalement donc le tahitien, comme on s'en doutait, est une langue tout aussi riche et tout aussi digne que les deux grandes langues internationales que sont le français et l'anglais.
Voilà, des livres qui sont distribués gratuitement dans les établissements et qui sont téléchargeables en ligne.
Les travaux avancent du côté du PK0.
Oui, sur le chantier de la Tour des Juges, dont la préparation suit son cours en vue des épreuves olympiques de surf, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, mais surtout au niveau de l'embouchure de la rivière Tihirahi. Vous le savez, le pays a commandé une nouvelle passerelle piétonne qui a été posée en fin de semaine dernière par l'entreprise Boyer. Située quelques mètres en aval de la passerelle actuelle, fragilisée par le temps et par les crues, cette nouvelle structure de 44 mètres et de 25 tonnes a été assemblée en métropole et acheminée jusqu'au PK0. Elle devait initialement être prête pour le mois de juin, soit un mois avant les Jeux Olympiques, mais le planning a finalement été avancé. Elle devrait être opérationnelle dès le mois de mai. Attends donc pour la Tahiti Pro organisée par la WSL avec quelques semaines d'avance cette année. Certaines infrastructures comme les rampes d'accès ou les aménagements paysagers attendront tout de même les Jeux Olympiques. Un projet chiffré à 390 millions de francs.
Et à propos des Jeux Val-de-Marne, on a des infos sur le parcours de la Flamme Olympique.
Et oui, prévu de base sur la côte ouest, l'itinéraire qu'emprunteront les 124 relayeurs sélectionnés par Paris 2024, il va finalement, sur volonté du pays, comprendre les communes de la côte est. La cellule Touaronui, créée spécifiquement par le ministère à l'occasion de ces Jeux, travaille dessus depuis plus d'un an avec les municipalités labellisées terres de jeux. Écoutez Teva Karoteauna, coordinatrice opérationnelle de Touaronui.
On a travaillé avec les communes sur des parcours qui font sens à leur histoire, à leur patrimoine. Le parcours a été co-construit avec eux comme ça. Il a été remonté au niveau national pour la validation d'un aspect sécuritaire et de différents aspects pour promouvoir un petit peu les valeurs de l'olympisme au même titre que les valeurs de la flamme olympique. Au départ, il était prévu que ça ne passe que sur le côté ouest et au final, on s'était dit qu'on allait faire sur les deux côtes pour faire valoir la totalité de Tahiti.
Voilà, la flamme fera donc quasiment un tour de l'île complet de Tahiti, en traversant d'ouest en est Tairapu West, Tevaiuta, Tairapu West, Papeno, Mahina, Arue, Papara, Paea, Punaouia, Pirae et enfin Papeete. Des tronçons de distances différentes ont ainsi été identifiés sur chacune de ces communes et les relayeurs sélectionnés devront parcourir 200 mètres chacun.
Si un tronçon a été identifié sur une commune, je dis n'importe quoi, de 1 km, on a du coup 5 relayeurs qui vont courir sur ce kilomètre et qui vont se relayer la flamme olympique. Donc chaque relayeur aura sa torche et il s'agira vraiment de faire un passage de flamme jusqu'à la fin du tronçon identifié sur la commune. À la fin de ça, la flamme repart sous forme de lanterne et part jusqu'au prochain point dans la prochaine commune de départ et ainsi de suite.
Et la démarche sera complexe pour passer d'est en ouest car deux flammes ne doivent jamais être allumées en simultané, c'est la règle olympique. Alors la première torche sera enflammée vers 6h le 13 juin à Tehupo par Ira Terinatoofa, le coach de l'équipe de France de surf. Pour l'occasion, il sera suivi par 24 accompagnateurs désignés par la Fédération Tahitienne de surf. La flamme terminera ensuite son parcours vers 18h-18h30 à Toata dans un chaudron spécialement installé pour l'occasion. Mais le nom du dernier relayeur n'est pas encore connu.
On parle football avec l'Océanie qui se donne rendez-vous à Tahiti.
Et c'est loin d'être une première, puisque rien que l'année dernière, le Fénois avait accueilli les qualifications régionales pour le mondial de beach soccer, puis le tournoi océanien des U19. Cette fois, c'est la Champions League de l'OFC qui va s'installer au Stade Pater, ce sera au mois de mai. Alors le représentant du Fénois n'a pas encore été choisi. Il s'agira soit du dernier champion de Ligue 1, l'AS Stéphana, soit le vainqueur de la dernière Coupe de Polynésie, l'AS Pirée. Les deux clubs devraient être départagés lors d'une rencontre spéciale au mois de février, mais l'OFC n'a pas attendu ce match pour procéder au tirage au sort de sa Ligue des Champions, c'était en début de semaine à Auckland, et les nouvelles sont plutôt bonnes pour les Tahitiens, puisque le club qui représentera le Fénois évite en phase de poule le club néo-zélandais ultra favori et qui pourrait encore une fois être représenté par une formation d'Auckland. Le club de Papouasie, celui de Salomon et de Fidji seront aussi dans le groupe A, déjà qualifié de groupe de la mort. Il faudra tout de même pour les Tahitiens se défaire dans le groupe B du club calédonien, du club vanuatais et du club vainqueur d'un tournoi qualificatif entre petits pays. Ensuite, il faudra espérer bien figuré dans ce groupe pour atteindre la finale. Pour rappel, le gagnant de cette Champions League gagnera son ticket pour la Coupe du Monde des Clubs, une compétition auquel avait pu participer la Espirée en 2022 après des désistements côté néo-zélandais et calédonien.
Et pour clore ce journal, on vous rappelle...